Un hombre de 79 años fue acusado de violación y agresión sexual a 89 menores. Uno de ellos en Colombia. Las agresiones fueron en Francia, Alemania, Suiza, Marruecos, Nigeria, Argelia, Filipinas, India y el caso colombiano. Nos atiende el señor fiscal de Grenoble en Francia, que atiende este caso que es la noticia más importante hoy en Francia, Étienne Manteau. Juan Pablo, saludando al señor fiscal, ¿quién es Jacques Leveugle?
Monsieur le procureur Étienne Manteau, bonjour, bienvenue à l'antenne de la W Radio et de la Caracol Radio.
Bonjour.
Bon, tout d'abord, on voudrait savoir, c'est qui Jacques Leveugle? Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer sur ce sujet-là, car il a été dans notre pays, en Colombie?
Oui, monsieur Leveugle est un Français qui est né en 1946. Il a 79 ans aujourd'hui et durant toute sa vie, il a vécu en France et dans plusieurs pays étrangers, notamment en Colombie en 1996, où il a été essentiellement enseignant ou éducateur. En Colombie, en 1996, il travaillait comme éducateur dans une maison d'enfants, la Bergerie, dans la capitale, à Bogota.
Pues nos dice que el señor Leveugle es una persona que nació en 1946, tiene 79 años. Durante toda su vida estuvo desempeñándose como educador, como formador, vivió en Francia, vivió en otros países. En cuanto a Colombia, estuvo en el año 1996 y en Colombia se desempeñó como educador, como profesor, en una casa en donde se albergaban jóvenes, es lo que nos dice él.
¿Cómo lo cogieron?
Et comment vous avez pu attraper Monsieur Leveugle?
En fait, d'une façon assez particulière, hein, puisque les investigations commencent en 2023, lorsque le neveu, le fils de son frère, amène aux enquêteurs des fichiers informatiques. Il soupçonnait son oncle, ce jeune, d'abuser de mineurs, et donc il a copié des fichiers numériques qui appartenaient à son oncle, et des fichiers numériques où cet oncle avait rédigé ses mémoires, expliqué tout ce qu'il avait fait en tant qu'adulte, et notamment comment il avait abusé sexuellement de 89 mineurs différents.
Pues nos dice que lo descubrieron de una forma bien particular. Fue por cuenta de su sobrino. El sobrino, en el año 2013, le llevó a las autoridades unos archivos de computador en donde estaba un relato. Pues era el relato que el mismo señor Leveugle había hecho como una especie de autobiografía en donde estaba contando sus memorias de cómo había logrado abusar de 89 niños o menores de edad a lo largo de su vida. Yo quisiera preguntarle al fiscal Manteau respecto a Colombia. Él ya tiene, por lo menos hasta ahora, un detalle de si hay una, dos o cuántas víctimas colombianas y si esas víctimas han podido ser contactadas. Monsieur le procureur, est-ce que vous avez déjà une idée de combien de victimes aurait-il pu laisser en Colombie, si vous les avez déjà identifiées ou si c'est un processus dont vous êtes en train de travailler maintenant?
Voilà, en fait, les enquêteurs ont travaillé de façon classique, c'est-à-dire en essayant sur la base des mémoires et sur la base des déclarations, puisqu'il est maintenant entendu par la justice, ce monsieur Leveugle, d'essayer d'identifier les victimes, mais on se rend bien compte que c'est difficile, notamment pour les victimes qui sont éloignées de la France, d'où cet appel à témoins, cette invitation qui est faite aux victimes, et notamment aux victimes colombiennes, si elles se reconnaissent, eh bien, de se manifester auprès des enquêteurs français, des auditions qui pourraient être faites par visioconférence, pour pouvoir que ces victimes puissent nous décrire, nous dire exactement ce qu'elles auraient subi de la part de M. Jacques Leveugle. D'où la diffusion d'un numéro de téléphone qui peut être appelé par toutes les victimes, où qu'elles soient sur la planète, pour être en contact avec les enquêteurs français en charge de ce dossier.
Pues nos dice que justamente ese es el gran problema que están teniendo en este momento los investigadores, porque sin duda pues se está tratando de avanzar de la forma clásica y es dar directamente con quienes habrían sido las víctimas, pero como son unas descripciones, no se tienen mayores detalles, ha sido muy difícil, así que lo que toca hacer es todo lo contrario. se está haciendo un llamado, una convocatoria para que las víctimas que logren identificarse como probables víctimas del señor Lefebvre contacten a los investigadores en Francia. Ya se ha dispuesto un número de teléfono para que desde cualquier lugar del mundo se comuniquen y a través de una conferencia en video que se pueda hacer desde cualquier computador o teléfono, pues se pueda establecer si hay o no alguna relación con el caso y convertirlos entonces en parte del mismo. Pero es una convocatoria que se hace porque no es tan fácil llegar a las víctimas.
Es una gran noticia que se dé obviamente la detención, pero uno en estos casos siempre se pregunta ¿por qué pudo actuar impunemente durante tanto tiempo?
C'est une bonne nouvelle de pouvoir dire au monde que aujourd'hui monsieur Lefebvre est déjà arrêté, mais tant de temps s'est passé, combien des années et des victimes, pourquoi ça a pris autant de temps de pouvoir retrouver une histoire comme celle-là?
En fait, ce qui est compliqué dans ce dossier, c'est que personne n'a jamais... Les jeunes n'ont pas parlé, et les familles non plus, mais les familles, probablement parce qu'elles n'étaient pas informées de ce qui se passait avec les mineurs, et puis les mineurs... Alors ça, pourquoi les victimes n'ont jamais dénoncé les faits? Ce processus-là, les victimes, souvent, par rapport à cette souffrance qu'elles peuvent ressentir, préfèrent ne pas parler... Mais en tout cas, il a fallu cette révélation du neveu et cet accès à ses mémoires pour que la justice soit informée de ces faits. Nous n'avions pas eu de plainte jusqu'alors portée à notre connaissance concernant ces faits. Alors, il faut dire aussi que le fait pour M. Lefebvre de changer de pays très régulièrement ne facilitait pas non plus l'identification et la révélation des faits. Hein. Il ne commettait pas une pluralité, beaucoup de
faits
successifs
d'un
même lieu.
Nos explica que lo que pasa, Félix, es que no se sabe cómo los amenazaría, cómo amenazaría a sus víctimas el señor Lefebvre, de tal forma que nunca nadie lo haya denunciado jamás. Nunca los menores contaron. No se sabe por qué. Y por eso entonces fue por cuenta de este sobrino que termina llevando esas memorias que él estaba escribiendo de sus abusos sexuales, que terminó conociéndose la historia, porque de lo contrario no se habría podido conocer lo que estaba pasando.
Impresionante, Juan Pablo. Pregúntele que si también dentro del caso hay una investigación por homicidio que involucraba a familiares de la víctima, del señor acusado de las violaciones.
Monsieur le procureur, et au sujet des assassinats, parce que on sait bien que Monsieur Lefebvre est aussi responsable d'avoir tué au moins deux personnes.
Un autre volet, effectivement, une autre enquête qui a été ouverte pour assassinat, effectivement, concernant sa mère. Alors, c'est des faits beaucoup plus anciens, 1974. Sa mère était en phase terminale de cancer, très gravement malade, et il a décidé de... C'est comme ça qu'il l'explique, d'abréger ses souffrances en l'étouffant avec un coussin. Mais c'est un deuxième fait également qu'il reconnaît. Hein, il a écrit dans ses mémoires, il a été entendu et il admet avoir agi ainsi. C'est sa tante qui vivait en Suisse, dans le canton de Berne, et une femme âgée, mais qui n'était pas gravement malade, qui était fragilisée par son grand âge. Et il a décidé aussi, parce qu'elle lui demandait de passer du temps auprès de lui, de prendre soin d'elle, et lui avait habité loin de là, et a décidé là aussi de l'étouffer dans son sommeil pour abréger sa vie, a-t-il dit, et il l'a étouffé également avec un coussin. Et ça n'est pas anodin, ça démontre en tout cas chez cet homme vraiment le fait qu'il est égocentrique, c'est-à-dire qu'il est vraiment centré sur lui-même et que les autres ne comptent pas beaucoup.
Monsieur le procureur, merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui à Caracol Radio. Bonne journée à vous.
Au revoir.
Au revoir. Bueno, pues nos dice que sí, que esa es la otra puerta que se abre al descubrir este caso, y no es una sino dos muertes, dos asesinatos. Uno, el de su propia madre en 1974. La mamá de él estaba padeciendo un cáncer y entonces él tomó la decisión de hacer más breve su sufrimiento y la mató, la ahogó con un cojín, como en las películas. Y el segundo hecho termina siendo muy similar, ya unos años después, con su tía, la hermana de su mamá, que estaba viviendo en Suiza, en Berna, ya un poco avanzada de edad,
y ella le reclamaba que por qué no pasaba más tiempo junto a ella, por lo que estaba muy, muy viejita. Y entonces él dijo, pues que lo mejor era matarla, e hizo exactamente lo mismo. La ahogó con un cojín. Dice el fiscal Monto.
Fascinado, eso es una prueba por el cojín, ¿no?
Sí, sí, que no, pero dice que esto en realidad es una muestra de la fascinación consigo mismo. Un hombre egocéntrico que centraba todo en sí, tanto que llevó a cabo estos hechos y luego los quiso escribir.